Bonjour et bienvenue à l'émission du 4 avril. J'ai fait mes exercices de diction. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors, est-ce que vous avez chanté sous la pluie ce matin?
J'avais des doutes en sortant à l'extérieur de mon domicile. Je pensais que le printemps était arrivé, mais j'ai l'impression qu'on a fait un saut dans le temps et qu'on est début décembre.
Oui, on dirait que l'hiver veut pas partir, même si nous, on l'invite à le faire, là, mais l'hiver
absolument.
A la tête dure, si je peux dire.
On aime beaucoup l'hiver, mais avec parcimonie.
Oui, mais en même temps, hein? On parle du temps, puis finalement, on n'a pas beaucoup de contrôle, mais ça fait du bien une fois de temps en temps.
Non, puis en même temps, on n'est jamais content. On voudrait qu'il fasse plus chaud, qu'il fasse plus froid, donc... Cela dit, c'est pas une météo si agréable que ça. Cette slush, cette pluie, ce froid-là...
Oui, et quand ça tombe, il y a des moments donnés où ça tombe très, très fort. Là, les essuie-glaces ne fournissent pas. Mm-hmm. Alors, il y a des choses pires que ça dans la vie pour terminer avec une phrase on ne peut plus cliché, mais je vous laisse aller avec les éphémérides.
4 avril, journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. On parle de mines antipersonnelles. Donc, on parle de choses plus graves que la météo,
oui.
Ceci étant un enjeu quand même très important. Ces mines qui ont la particularité de rester actives même après la résolution de conflits et qui sont plus ou moins des armes aléatoires, donc contrairement à une arme conventionnelle telle une arme à feu, où on vise sur une personne directement, une personne ou une chose, mm-hmm. Ces mines sont enfouies. Et ça peut être un animal, un enfant, ça peut être n'importe qui, à n'importe quel moment, plusieurs décennies plus tard, qui met le pied sur cette mine et qui altère très profondément la vie.
C'est traumatisant, oui.
Absolument. Autre événement marquant, on va essayer de ne pas rester dans le trop lourd. 4 avril 1791, à Paris, l'église Sainte-Geneviève est rebaptisée le Panthéon. Et c'est destiné à recevoir les cendres des grands hommes et, en plus des grands hommes, depuis le siècle dernier, de grandes femmes. On devrait avoir l'intronisation d'une quatrième femme cet été. 1947, création de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont le siège sera établi ici même à Montréal. 1949, le traité de l'Atlantique Nord est signé à Washington et création, par le fait même, de l'OTAN. 4 avril 1963, la compagnie RCA annonce qu'elle mettra sur le marché des 45 tours populaires en stéréo. Jusque-là, on était seulement en mono. Pour l'explication rapide de mono, le signal est le même dans le petit haut-parleur qui sort. Stéréo, lorsqu'on a deux haut-parleurs, on a un signal un petit peu différent. Donc, on peut avoir un peu plus de guitare à gauche, un peu plus de clavier à droite.
Le son est plus riche, hein?
Le son est plus riche, ouais. Oui. Donc, c'était une première dans l'industrie du disque en 1963. Le premier disque 45 tours à paraître et en mono et en stéréo sera Stuck on You d'Elvis Presley. 1964, une déclaration que je trouve fort sympathique. Le magazine américain Billboard écrit, je n'ai pas le nom du journaliste ou de l'éditeur qui a signé ça. À peu près tout le monde en a marre des Beatles. Les DJ en ont marre de faire jouer les chansons du groupe. Les chroniqueurs des magazines en ont marre d'écrire à leur sujet. Les fabricants de produits autres que ceux des Beatles en ont marre d'en entendre parler. Mm-hmm. On est en 1964, je le rappelle. En somme, tout le monde en a marre des Beatles, à l'exception du public qui écoute leurs chansons et achète leurs disques.
Même 50 quelques années plus tard, on en a pas marre.
Absolument. 1968, 4 avril 1968, à Memphis, au Tennessee, le militant des droits des Noirs, Martin Luther King, est assassiné. 1969, à Houston, implantation du premier cœur en plastique sur un patient. Transplantation qui permettra à ce patient de survivre 4 jours supplémentaires. Donc, 4 jours, un succès, si on veut, de 4 jours pour cette première implantation d'un cœur de plastique. 1973, encore un 4 avril, inauguration du World Trade Center à New York. Oui, le World Trade Center. 1974, j'en parlais hier, 3 avril, le début du Super Outbreak, cette tempête de tornades dans laquelle on compte plusieurs dizaines, voire au-delà de 100 tornades qui ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Donc après 24 heures de terreur, fin de l'éruption des tornades. Donc en fait, moins de 24 heures, 18 heures précisément, qu'on dit que cette tempête aurait duré.
C'est pire qu'un printemps hivernal, ça.
Absolument, et je voyais aussi que nous, un peu partout au Québec, qu'on a de la neige, de la pluie, des précipitations, mais à certains États, aux États-Unis, hier, il y avait des alertes de tornades.
Aïe, aïe,
Donc,
aïe.
on se compare, on se console.
Ouais.
1975, création de la multinationale américaine de solutions informatiques Microsoft. 2008, toujours un 4 avril, un incendie ravage le manège militaire de Québec. 2012, le Sénat du Canada adopte le projet de loi qui vise à abolir le registre des armes d'épaule, dossier qui fait encore jaser. C'était en 2012, on est en 2018 et on en parle encore. Et 2014, 4 avril, une peine de 8 ans de prison est imposée à l'ex-enquêteur du service de police de la ville de Montréal, Benoît Roberge, coupable d'avoir vendu des renseignements aux Hells Angels. Pour terminer cette chronique, 4 avril, naissance en 1928 de la poétesse, écrivaine, actrice et militante Maya Angelou. Et 1992, date de décès, le 4 avril 1992, décès de la comédienne et cofondatrice du Théâtre du Rideau Vert, Yvette Brind'Amour.
Ah oui. Merci Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir, comme toujours.
Exclusif à la presse, au moins 4 ans pour déloger le crime organisé, alors que les corps policiers du pays affirment qu'il faut être naïf, entre guillemets, pour croire que la légalisation de la marijuana permettra de faire échec au crime organisé. Le ministère de la Justice persiste et signe des documents obtenus par la presse en vertu de la loi sur l'accès à l'information, révèle qu'Ottawa prévoit qu'il faudra au moins 4 ans pour atteindre cet objectif. Lors du slalom, l'ex-journaliste Vincent Marissal a confirmé hier son passage chez Québec solidaire, notre compte rendu et l'analyse de Denis Lessard. Et à ce sujet, Yves Boisvert titre sa chronique « Le choix de Vincent ». Affaire condo 9, vente record au centre-ville. Dit qu'un parcours rectiligne était garant de succès en politique. Avant de faire le saut avec le nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair était venu bien près de rallier les conservateurs. Chef de la coalition Avenir Québec, François Legault est d'abord venu en politique avec le Parti québécois. Jean-Martin Hossan s'est connu, a flirté avec Québec solidaire. Des spécialistes pensent que Vincent Marissal a bien des chances de l'emporter sur Jean-François Lisée dans Rosemont aux prochaines élections générales. Mais encore tout récemment, en janvier dernier, Vincent Marissal a passé un coup de fil à un stratège important du Parti libéral du Canada au Québec. La rencontre qu'il souhaitait a vite été convenue autour d'un café à l'édifice Belgo, rue Sainte-Catherine. Celui qui vient de s'annoncer comme candidat de Québec solidaire s'intéressait au cheminement à suivre pour devenir candidat de Justin Trudeau lors de la partielle qui inévitablement allait s'ouvrir dans la circonscription d'Outremont, après le départ du chef néo-démocrate Thomas Mulcair. En point de presse, hier matin, Vincent Marissal a nié d'un bloc avoir même évoqué la circonscription bientôt vacante. Il était moins catégorique plus tard dans la journée quand on lui a rappelé les faits. « Ma conclusion était que je n'y allais pas dans Outremont. Cela se peut fort bien que mon interlocuteur fédéral n'ait pas compris ça, que je ne l'ai pas dit. Mais dans ma tête, c'était clair que je n'y allais pas », a conclu hier M. Marissal dans un entretien avec la presse. Ce libéral proche du cabinet de Justin Trudeau affirmait encore hier que M. Marissal l'avait quitté en promettant de faire ce qu'il faut, s'organiser pour une investiture afin de se porter candidat. C'était une troisième rencontre entre des gens du PLC et ce journaliste qui régulièrement réfléchissait à son avenir. En décembre 2016, il avait réfléchi à un poste de conseiller politique à Ottawa. Et cette fois, un texte de Simon-Olivier Lorange. « J'ai toujours été à gauche. J'ai toujours été de gauche, devrais-je dire. D'entrée de jeu, Vincent Marissal a livré une profession de foi à gauche toute. On reproche parfois à Québec solidaire d'être radical. Je ne pense pas que l'égalité homme-femme soit un symptôme de radicalisme, mais de conscience sociale, a-t-il lancé. étendant sa réflexion aux écarts de richesse et à la lutte contre les changements climatiques notamment. « Les raisons de mon indignation sont nombreuses », a-t-il résumé, citant en exemple le sort des familles qui en arrachent de plus en plus, l'épuisement des infirmières et enseignantes, ainsi que le refus net de débattre d'un salaire minimum décent ou de gratuité scolaire. « J'ai toujours été de gauche », a-t-il insisté. Vincent Marissal a avoué être un souverainiste de longue date. Il dit avoir voté « oui » avec fébrilité au référendum de 1995, convaincu que nous étions aux portes de quelque chose d'important. La guerre des sucres. La saison des sucres commence bien mal pour un couple de producteurs de Scotstown dans les cantons de l'Est hier matin. Tout leur sirop de ce début d'année 2018 a été saisi sous la supervision d'agents de la Sûreté du Québec. C'est la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui a ordonné l'intervention à l'érablière Gaudreau avec une ordonnance de saisie avant jugement en main. Pourquoi? La Fédération craint que le couple vende directement son sirop en grande quantité à un intermédiaire, ce qu'il ne peut pas faire selon les mécanismes mis en place au Québec. Nathalie Bombardier et Daniel Gaudreau n'en sont pas à leur premier démêlé avec le syndicat de producteurs de sirop d'érable, qui gère la vente en vrac pour tous les acériculteurs de la province. On est plus devant un cas de désobéissance civile que d'un réel désir de régler les choses, dit Simon Trépanier, directeur général de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Au Québec, les acériculteurs peuvent vendre leur sirop directement à leur clientèle dans de petits contenants de moins de 5 litres, comme les célèbres boîtes de conserve de sirop. Environ 80 % des Québécois achètent directement du producteur, explique Simon Trépanier, directeur général de la Fédération, mais cela ne représente que 10 % du sirop produit annuellement au Québec, le plus gros étant destiné à l'exportation. Le reste est donc vendu en vrac et les acériculteurs doivent obligatoirement passer par la Fédération et détenir des contingents. Le couple Bombardier-Gaudreau refuse de se plier à cette façon de faire, comme quelques autres producteurs québécois qui sont en guerre ouverte contre leur fédération, guerre qui se conclut souvent devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en faveur de la fédération. À l'érablière Gaudreau, les saisies sont devenues une tradition, comme le temps des sucres. Les 18 500 professionnels du gouvernement toucheront des augmentations salariales plus élevées que les autres fonctionnaires, 12,5 % en 5 ans, auxquels s'ajoutent des montants forfaitaires. Et c'est un minimum selon leur syndicat. Québec a annoncé le 23 mars dernier la conclusion d'une entente de principe avec le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, l'un des rares groupes d'employés avec qui il ne s'était toujours pas entendu. Le contenu de l'accord, qui doit être soumis à l'approbation des membres, n'avait pas été rendu public. Le gouvernement se donne les moyens de se rebâtir une expertise professionnelle, comme le recommandait la commission Charbonneau, a fait valoir Richard Perron. Début d'une grève massive, les cheminots français ont entamé hier un mouvement de grève qu'ils annoncent massif, susceptible de paralyser la France par intermittence pendant 3 mois, un défi majeur pour le président Emmanuel Macron et ses projets de réforme. Tandis que les éboueurs et les employés du secteur énergétique étaient eux aussi appelés à faire grève pour réclamer un service public national, la grogne se poursuivait également dans les airs, avec une 4e journée de débrayage en 1 mois du personnel d'Air France, qui réclament des augmentations salariales. Face à ce cortège de mécontents, notamment des cheminots fortement mobilisés contre la réforme du secteur ferroviaire, le gouvernement tiendra bon, dans l'écoute, dans la concertation, dans le dialogue, a assuré la ministre des Transports, Élisabeth Borne.
Si au moins c'était pour toi, pour la rivière ou le moulin, je comprendrais mieux pourquoi que demain demain je vais tuer quelqu'un. Quelqu'un que je connais pas, avec une rivière, un moulin, avec une femme comme toi qui chérit aussi bien. Demain je vais le tuer pour rien. Si la vie veut m'offrir un dernier sentiment, ce serait mon désir de mourir avant lui. Au moins qu'on m'épargne la frayeur de croiser son regard. Enterre mes outils dans la cour, le chien pour toujours, t'offriras ta beauté à mon frère qui la voulait aussi.
La plus récente offrande du grand Richard Desjardins, c'est la pièce Vimy, qui est parue l'an dernier.
Devoir, une photo sous laquelle on peut lire le président américain ulcéré après avoir vu des images d'une caravane de migrants partis d'Amérique centrale pour rejoindre les États-Unis, a indiqué qu'il enverra l'armée protéger sa frontière avec le Mexique en attendant la construction de son mur. Trump opposera ses soldats aux migrants, c'est le titre de la photo, si je puis dire. Lac Mégantic, la tragédie restera impunie. La demande d'une enquête publique se fait plus pressante avec l'arrêt des procédures criminelles contre la MMA ou la MMA. Affaire Juvenal, mise en garde de l'ONF aux cinéphiles, les films où le père apparaît sont accompagnés d'un résumé des allégations contre lui. Musique, le grand leurre du numérique. Les artistes et la création souffrent de l'économie dématérialisée, montre le journaliste Alain Brunet dans son essai intitulé « La misère des niches ». Et sous la photo d'une fille qui est en train d'écouter de la musique, on peut lire « Les artisans de la musique sont les grands perdants de la révolution technologique ». Gabriel Nadeau-Dubois surpris. Vincent Marissal confirme sa candidature pour Québec solidaire. L'indigné, c'est le titre de la chronique de Michel David. Le chaos en ce premier jour de la grève du rail en France. Première femme à diriger la société CBC Radio-Canada. Faute de preuves, le procès criminel contre la Montreal, Maine and Atlantic, MMA, n'aura pas lieu. Sans coupable au bout du compte, des citoyens de Lac-Mégantic relancent avec l'énergie du désespoir la demande d'une enquête publique indépendante pour faire la lumière sur la tragédie ferroviaire. On aurait aimé des coupables pour enfin fermer le dossier. La seule façon d'obtenir des réponses maintenant, c'est d'avoir une enquête publique pour éviter que l'irréparable se reproduise. Soutient Robert Bellefeuille. Bellefleur, dis-je bien, porte-parole de la Coalition des citoyens pour la sécurité ferroviaire. Les allégations d'agression sexuelle à l'encontre du père Alexis Jouveneau ont fait leur chemin jusque dans les archives de l'Office national du film. Depuis mardi, les films qui présentent le missionnaire sont ainsi précédés d'un avertissement en ligne. L'avertissement rappelle que, depuis novembre 2017, des allégations d'agression ont été portées contre M. Jouveneau pendant les audiences de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Des enquêtes et articles journalistiques récents ont aussi rapporté d'autres allégations d'agressions sexuelles, d'abus physiques, psychologiques ou financiers, ayant fait des dizaines de victimes, ajoute-t-on. Le texte évoque aussi la demande d'action collective déposée la semaine dernière contre les Oblats de Marie Immaculée. Cette action concerne les agressions qui auraient été commises sur la base Côte-Nord par le père Jouveneau et d'autres membres de la congrégation religieuse. Nous sommes évidemment anéantis par les témoignages troublants qui nous ont bouleversés et attristés, a déclaré son ancienne congrégation il y a quelques jours. Puis une série de reportages publiés dans le Journal de Montréal en mars a renforcé la prise de conscience. L'ONF a recensé 5 films où le père Alexis Jouveneau figure, dont 2 documentaires de Pierre Perrault. Il y a péril en la demeure dans le monde de la musique dans un essai documenté et structuré alarmant, mais pas alarmiste. Le vétéran journaliste à la presse, Alain Brunet, démontre que l'économie numérique est en train d'asphyxier les créateurs et la création. Alain Brunet sur les niches, ce qu'on nommait jadis culture générale est un souvenir de plus en plus lointain. L'imaginaire culturel se trouve archi-fragmenté. L'humain de l'univers numérique s'isole dans l'une ou l'autre de ces micro-tendances. Les médias, sur les médias, Alain Brunet dit, je cite, « ce déclin simultané de la valeur marchande de la musique enregistrée et de la presse écrite n'a strictement rien à voir avec une baisse d'affluence, mais bien avec la gratuité ou la quasi-gratuité imposée par le nouvel ordre virtuel. Les gens consomment plus de contenu audiovisuel et lisent plus que jamais pendant que ces valeurs s'écroulent et que leurs créateurs voient leur profession menacée. » Une nomination porteuse d'espoir, une productrice anglophone, Catherine Tate, devient la première femme à diriger la société CBC Radio-Canada en plus de 80 ans d'histoire. Les enjeux numériques, l'inclusion des minorités, l'information locale et des désirs de partenariat avec les autres acteurs canadiens de la radiodiffusion sont parmi les priorités évoquées par la nouvelle PDG de la société CBC Radio-Canada, Catherine Tate. Cette dernière a par ailleurs reçu un accueil très favorable des acteurs du milieu qui la disent directe, dynamique, compétente et audacieuse. Madame Tate est une productrice anglophone bien connue dans le milieu de la télévision et du cinéma, dans lequel elle travaille depuis une trentaine d'années. Elle est en ce moment présidente de l'entreprise Duopoly. Cette Canadienne qui vit aux États-Unis devient la première femme nommée à titre de grande patronne de CBC Radio-Canada. Le Canada doit agir en chef de file pour répondre à la crise humanitaire qui frappe les Rohingyas du Myanmar, clame l'envoyé spécial de Justin Trudeau pour la région. Bob Rae somme le premier ministre de bonifier son aide humanitaire, d'accueillir sa part de réfugiés, mais aussi de mener la charge internationale contre les tortionnaires du pays d'Asie du Sud-Est. Ce que nous faisons ou ne faisons pas en réponse à la crise au Myanmar et au Bangladesh sera un test décisif de la politique étrangère du Canada, tranche l'ancien chef libéral dans son rapport rendu public mardi. Violences sexuelles commises par des militaires, morts d'enfants lors de la périlleuse fuite vers les camps du Bangladesh, villages brûlés. Le document fait état d'une panoplie d'atrocités qui ont été racontées à M. Rae lors de ses visites au Myanmar et dans la région en novembre et en mars dernier. Le premier ministre Justin Trudeau a pris acte des recommandations de son ancien chef. Le Canada s'engage à contribuer à résoudre cette crise, a-t-il affirmé par écrit, en s'engageant à étudier les propositions de M. Rae et à présenter d'autres mesures que nous avons l'intention de prendre. Le service de police de Toronto renonce finalement à participer au défilé de la fierté LGBTQ en juin, alors que les organisateurs ne souhaitaient pas la présence de policiers en uniforme dans le cortège. Le directeur du service, Mark Saunders, souhaite prouver par ce retrait qu'il est à l'écoute des préoccupations de la communauté, même s'il reste beaucoup de travail à faire. Dans un communiqué, il explique qu'en insistant pour participer au défilé, il aurait pu faire reculer les progrès accomplis jusqu'ici avec les communautés LGBTQ. Il espère que les partis travailleront de concert afin qu'un jour les policiers soient les bienvenus à ce défilé. Une panne technique rarissime chez Eurocontrol, l'organisme européen assurant la sécurité du trafic aérien, a entraîné mardi des retards au décollage et perturbé des vols commerciaux sur tout le continent. La panne a eu pour conséquence la perte de quantité de plans de vol déposés par les compagnies aériennes. Plusieurs grandes plateformes aéroportuaires d'Europe ont fait état d'un trafic aérien ralenti par rapport à la normale. Eurocontrol est une organisation intergouvernementale dont le siège se trouve à Bruxelles et qui regroupe 41 États membres, dont les pays de l'UE, mais aussi l'Ukraine, la Turquie et la Norvège. L'émission Le quotidien des quotidiens se poursuit après la pause et la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal.
8h30.
I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit to your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, 'cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face, who can help you? Just a pretty face, who can help? Baby, come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting live before your main girl. Your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together.
Love.
On vient d'entendre Charlotte Cardin et la pièce Main Girl.
Du Journal de Montréal, Price ovationné malgré tout, en dépit de sa pire saison. Le gardien de 30 ans a été chaleureusement applaudi lors du dernier match du Canadien à domicile. En disputant un 557e match avec l'équipe, il a dépassé la marque du grand Jacques Plante. Piratage de données chez l'ex-parti de Coder, la firme soupçonnée faisait affaire avec plusieurs partis. PLQ, PQ et même le parti de la mairesse Plante. Enquête déclenchée par la Commission d'accès à l'information. La bureaucratie se moque d'une famille de réfugiés. Le concepteur de site web est blâmé. Le parti de l'ancien maire de Nicodère juge Logika, L-O-G-I, espace K, comme la lettre K au majuscule, responsable de la vaste fuite sur ses donateurs. Le parti de l'ancien maire de Montréal de Nicodère blâme son concepteur web pour la fuite massive de données personnelles qu'a révélé notre bureau d'enquête hier. La firme en question Le parti de l'ancien maire de Montréal, de Nicodère, blâme son concepteur web pour la fuite massive de données personnelles qu'a révélé notre bureau d'enquête hier. La firme en question a fait affaire avec plus d'une quinzaine de formations politiques, dont le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, selon son site web. Je suis consterné d'apprendre le piratage des données personnelles de 869 contributeurs au parti Équipe de Nicodère pour Montréal, dit le directeur du parti rebaptisé Ensemble Montréal. Lorsque la formation politique avait été mise au courant de la fuite, au lendemain des élections du 5 novembre, son sous-traitant Logika lui avait assuré que les données confidentielles des donateurs n'avaient pas été compromises, affirme Gilbert Decoste dans son communiqué. Devant ces nouvelles informations, je dois malheureusement conclure que Logika ne nous a pas donné l'heure juste, dit le directeur. L'entreprise effectue une nouvelle investigation et notre parti attend des réponses de sa part. Notre bureau d'enquête a tenté de joindre à plusieurs reprises le président de Logika, Alexandre Foisy, mais il n'a pas répondu à nos messages. Jusqu'à hier, le site de l'entreprise démocratique, avec un K à la fin, .org, faisait sur sa page d'accueil une énumération des partis politiques avec lesquels elle a fait affaire. Parmi eux figurent le Parti libéral du Québec et les partis des maires actuels de Montréal et Québec, Projet Montréal et Équipe La Bombe. Les services rendus n'incluaient pas nécessairement la conception de sites web. Les libéraux précisent d'ailleurs qu'ils n'ont pas retenu les services de Logika que pour du pointage lors de deux élections partielles. La Commission d'accès à l'information du Québec a ouvert une enquête sur la fuite. Deux de nos journalistes qui ont révélé son ampleur, Jean-François Cloutier et Félix Séguin, se sont rendus hier dans leur bureau pour remettre les quelques 800 pages d'informations confidentielles qu'elle contient. Ils sont prisonniers de la bureaucratie depuis 9 ans. Ils nous ont volé 9 ans de notre vie. Tout est bloqué. Si on veut faire quelque chose, planifier notre avenir, on doit se rappeler qu'on vit sur un siège éjectable. Si on investit de l'argent, on risque de tout perdre si on se fait refuser notre demande d'asile 2 jours plus tard. C'est tellement difficile, soupire Charles. Charles, un nom fictif. Depuis qu'il habite au Québec, il y a presque 9 ans, sa femme, ses 3 enfants et lui ont tous appris le français et l'anglais. Ils les parlent couramment, même si ce sont leurs 3e et 4e langues. Les deux parents originaires du Proche-Orient, on ne peut nommer leur pays d'origine, travaille à temps plein car il refuse de vivre sur le dos de l'État. La mère a même été promue dernièrement au poste de gérante dans le restaurant où elle travaille. L'un de leurs fils a remporté un prix à l'école pour son succès. La famille vit un calvaire légal depuis qu'ils ont déposé leur demande de statut de réfugié. Ils n'ont jamais réussi à obtenir une audience complète devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Or, c'est cette commission qui doit décider s'ils peuvent rester au pays à titre de réfugié ou pas. La famille assure qu'elle craint pour sa sécurité dans sa région d'origine. Du côté de la commission, on assure que toutes les mesures sont prises pour organiser des audiences le plus vite possible, tout en respectant les ressources limitées du tribunal. Sans discuter du cas précis de cette famille, une porte-parole indique que la plus ancienne demande active date de 2007. Poisson d'avril involontaire par Immigration Québec, une erreur informatique a donné de faux espoirs à des milliers d'étrangers. C'est une année passée à surveiller le site qui part en fumée, indique depuis la Côte d'Ivoire, Siriki Konaté, qui rêve d'immigrer au Québec. Cela fait des jours que je ne dors plus en attendant des nouvelles. Je me sens floué. Comme plus de 6500 personnes, Siriki Konaté a pu déposer le 1er avril un dossier d'immigration sur le site Mon Projet Québec, qui n'était plus censé recevoir de candidature jusqu'à nouvel ordre. Ce jour-là, cette plateforme électronique déjà connue pour ses ratés s'est rouverte mystérieusement sans qu'aucune annonce n'ait été faite. Vestige de cette cyber-bousculade, la file d'attente virtuelle du site, pour l'instant hors service, affichait encore il y a quelques heures pas moins de 81 000 personnes. Contacté par le journal, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec a finalement reconnu hier un problème technique sans donner plus de précisions et s'est excusé pour les inconvénients créés. Il a indiqué que les dossiers enregistrés le 1er avril ne seraient pas recevables et que le remboursement des candidats ayant payé des frais avait déjà débuté. Le tueur de la mosquée demande 25 ans de tôle. Les avocats d'Alexandre Bissonnette, coupable de 6 meurtres au premier degré et de 6 tentatives de meurtre, estiment qu'une peine de 150 ans de détention équivaudrait à une peine de mort par incarcération. $6 millions pour lutter contre un champignon. Des propriétaires qui luttent contre un champignon dévastateur sont soulagés que Québec reconnaisse enfin ce fléau en versant une aide de plus de 5 millions sur 3 ans. La mérule pleureuse, aussi surnommée le cancer du bâtiment, s'attaque à la cellulose du bois et entraîne sa décomposition. Elle se développe dans des milieux obscurs, très humides et avec peu de ventilation. La ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation, Lise Thériault, a annoncé hier que 5,6 millions seront investis pour soutenir les familles touchées par la mérule. La pétrolière québécoise Gazprom a décidé qu'elle ne fera pas appel du jugement qui avait débouté sa tentative d'obtenir une compensation de 1 million de dollars du village de Ristigouche, partie sud-est, en Gaspésie. Gazprom avait entamé des mesures judiciaires contre Ristigouche après que la communauté eut adopté un règlement municipal en 2013 pour protéger les sources d'eau sur son territoire, alors que l'entreprise menait des travaux d'exploration pétrolière à moins de 200 mètres d'une source d'eau potable. Or, la Cour supérieure a jugé à la fin février que le règlement municipal est valide. L'entreprise avait été condamnée à rembourser un peu plus de 150 000 $ à Restigouche.
La formation Indochine, j'ai demandé à la Lune.
Les journaux régionaux, la chronique de Luc Larochelle dans la Tribune, intitulée « La marche vers le pardon ». Si quelques férus d'histoire mettent la main lors du prochain millénaire sur ce qui s'est passé au Québec durant la fin de semaine pascale de l'an 2018, ils croiront ce récit d'époque truffé d'autant d'erreurs historiques que le film à grand déploiement Ben-Hur. Plus besoin de revoir ce classique chaque année pour se souvenir que le héros personnifié par Charlton Heston finit la course de char sur les genoux, aussi magané que son char, n'ayant plus que la force et le courage comme essieu, et pour semblant de roue pour vaincre la persécution en triomphant à l'arrivée. Rares sont ceux qui l'écoutent encore du début à la fin. 4 heures, c'est long. C'est du temps passif qu'on n'a plus pour être de son temps. C'est bien cela. D'où le réflexe de n'en retenir très souvent que des capsules humoristiques isolant des bourdes commises lors du tournage, comme celle d'un des sonneurs de corps filmé avec une montre au poignet, supposément allant 33. On rigole d'autres extraits conservés au montage, dont la séquence au cours de laquelle 3 des 9 chars ayant pris le départ, sortent de piste, suivies de celles qui nous montrent encore 7 participants au derby. Cherchez-vous le fil conducteur du texte, le lien entre l'actualité de la fin de semaine pascale et ses erreurs temporelles? Le pape François, le chef du Vatican, qui refuse catégoriquement de présenter ses excuses aux Autochtones du Canada malgré les preuves accablantes du comportement sexuel déviant de représentants de l'Église catholique pendant que Walmart, la Mecque du capitalisme, exprime des regrets d'avoir manqué de considération à des déficients intellectuels, c'est pour le moins anachronique, non? Comme discordance avec la bonté de Jésus décrite dans les Évangiles et comme distance par rapport aux marchands du temple contre lesquels l'envoyé du Père aurait tempêté en leur reprochant d'être insensible à la souffrance, ça détonne pour la peine. Je sens certains d'entre vous sur le point d'exploser. T'es pas drôle pantoute, il n'y a rien de risible dans l'affront de l'Église catholique aux Autochtones ou dans la décision d'un géant du commerce mondial de renvoyer sa main-d'œuvre handicapée à la maison. Parfaitement d'accord. Par contre, nous savons tous que la version originale du drame biblique Ben-Hur, tournée en 1959, n'est pas que de la fiction. Avant les éléphants, des humains ont été des bêtes de cirque que des lions étaient impatients de dévorer pour le bon plaisir de l'empereur et pour calmer le peuple qui en venait ainsi à se résoudre qu'il y avait pire châtiment que celui d'être grossièrement exploité. On réussit pourtant à rire de tels sacrifices humains parce que la distorsion, c'est le temps qui l'a créé, ni vous ni moi. Long détour pour cerner ce que nos mémoires devraient retenir des derniers jours. Aussi riches et aussi puissants soient-ils, les dirigeants de Walmart n'osent plus se comporter en monarque. Sans doute se soucient-ils des infidélités de leurs clients, de plus en plus nombreux à transiger en ligne avec des concurrents du numérique. Mais les lions ne font plus que se manger entre eux. Ils se soucient soudainement de leur image et à travers elle, des plus fragiles d'entre nous ne demandant qu'à contribuer à nos sociétés un peu plus évoluées. Malheureusement, la débilité traverse rapidement nos contrées. Elle a forcé les patrons d'une entreprise de Rivière-du-Loup à se détacher publiquement des propos désobligeants d'un de leurs employés ayant reproché à l'animateur Charles Lafortune d'avoir pris la plume pour dénoncer la décision de Walmart du seul fait qu'il soit père d'un Mongol. Une honteuse dérape. Voyons tout de même le positif, soit une lente et précieuse progression de nos valeurs. Réjouissons-nous également de la mobilisation pour les défendre. Le pape François nous ayant présenté un visage très humain à son arrivée au Vatican, les excuses de Walmart le font mal paraître. Il a intérêt à revoir ses positions. Même des excuses feutrées seraient mieux que l'entêtement à se défiler. Est-ce la crainte qu'une admission resterait même dans les généralités puisse avoir une quelconque portée légale pour vider les coffres de toutes les communautés religieuses talonnées par des victimes du passé? À ce jour, les autres églises dont les leaders ont exprimé de sincères regrets envers les Canadiens du Nord ne sont pas encore menacées de banqueroute. Que tous les fidèles de l'Église catholique soient invités à demander miséricorde et pardon un vendredi saint, sauf son chef spirituel, ça écorche un brin. Si j'étais conseiller du souverain pontife, je m'emploierais avec insistance à le convaincre que cette erreur de jugement doit rapidement être coupée au montage avant qu'elle ne fasse trop de dommages dans le temps. Les chiens, bienvenue dans les parcs, c'est dans le droit. Mathieu Bélanger qui signe l'article. La ville de Gatineau se prépare à effectuer un virage à 180 degrés dans sa réglementation concernant la présence des chiens dans ses parcs. Promener son chien est actuellement interdit dans 93% des 353 parcs municipaux, mais plus pour longtemps. À compter du 1er juin, les chiens en laisse seront autorisés dans 250 parcs sur tout le territoire de la ville, en plus des deux aires d'exercice canin déjà existantes. Une présentation sur la révision de la réglementation a été faite aux élus mardi matin en comité plénier. Les changements proposés par l'administration n'ont rencontré aucune résistance de la part du conseil. Les modifications réglementaires doivent être adoptées lors du conseil municipal du 17 avril. La révision de la réglementation a été amorcée par le service des loisirs il y a un an, à la suite d'une demande de la conseillère Louise Baudria. S'ils viennent de gagner un privilège, les propriétaires de chiens devront cependant se plier à plusieurs obligations pour continuer à assurer le droit des autres citoyens à se sentir en sécurité dans les parcs de la ville de Gatineau, a fait remarquer la conseillère Renée Amiot. Les maîtres devront garder leurs chiens en laisse en tout temps et la laisse ne devra pas dépasser 2 mètres. Un propriétaire ne pourra pas avoir plus de 2 chiens en laisse en même temps. Les chiens, catégorisés comme potentiellement dangereux, n'auront cependant pas plus le droit d'aller renifler dans les parcs que maintenant. Il faut absolument mettre en place une façon d'appliquer la réglementation et que cette surveillance-là soit adéquate pour éviter des accidents, des morsures, a affirmé Mme Amiot. Je vois des chiens circulant sans laisse tous les jours. Des chiens dangereux aussi, j'en vois. Je ne crois pas que les gens savent que les chiens potentiellement dangereux ne peuvent pas circuler sur les lieux publics. Ils ne sont littéralement pas au courant. Notre campagne de communication va tenir compte de cet aspect-là. Dans Le Soleil à Nîmes-Morin, la prolifération de graffitis anticapitalistes dans les rues de Québec et les imminentes manifestations contre le sommet du G7 n'émeuvent pas le maire de Québec qui pense davantage aux bénéfices de l'événement qu'au casse-tête qui vient avec. On ne peut pas dire qu'on est absolument surpris, a lancé Régis Labeaume mardi matin, en marge de l'annonce du début des travaux d'agrandissement du centre communautaire des Chutes. Il commentait la multiplication ces dernières semaines de messages anticapitalistes sur des murs de propriétés privées et dans des vitrines de commerce de la capitale. Le problème là-dedans, c'est toujours de prendre les gens sur le fait. Monsieur Labeaume, refuse de dire que Québec devient une cible à la place de la Malbaie, vive ville charlevoisienne où aura lieu le G7, mais qui sera pratiquement interdite d'accès les 8 et 9 juin. On va y aller plus mollo dans les termes. En tout cas, moi, c'est ma responsabilité. Bien sûr, tous les journalistes seront à Québec, alors ceux et celles qui voudront protester tenteront pas de le faire aux Escoumins. Je pense qu'ils vont aller à Tadoussac. On s'attend à ce qu'ils viennent à Québec parce que la presse y est. Les gens qui veulent faire des démonstrations veulent s'assurer que c'est bien couvert et idéalement diffusé sur la terre entière. On les comprend. C'est ce qu'on appelle la démocratie, a-t-il développé. À chaque G7, il y a des démonstrations, alors il n'y a rien de nouveau là-dedans. Moi, j'y vois au total surtout un bénéfice. La terre entière est ici. Ces journalistes, pour beaucoup, arrivent quelques jours avant et font ce qu'on appelle des features. Ils auront la possibilité de faire voir au monde entier la beauté de notre ville, les avantages de notre ville, a renchéri le maire. M. Labeaume doit rencontrer cette semaine le Sherpa du G7, Peter M. Bone, et le directeur du service de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon, pour faire le point sur les préparatifs. Surdose de morphine à 106 ans, c'est dans le quotidien Stéphane Bégin, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et la Direction générale du CIU 3S Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent examiner le traitement réservé à la centenaire Alma Mayou, décédée d'une surdose de morphine entraînant une dépression respiratoire fatale. Le coroner Sylvain Truchon a soumis un rapport de 5 pages au cours des derniers jours relativement au décès de la dame de 106 ans survenu le 3 mai 2016 au Centre d'hébergement et de soins de longue durée foyer de Bagotville. Dans son rapport, Maître Truchon parle d'une mort violente à la suite de doses de morphine administrées à la vieille dame après qu'elle soit tombée dans sa chambre. La revue des médicaments administrés à Mme Mayou après sa chute suscite des questionnements. Il appert que les doses de morphine ont été administrées de façon plus ou moins égale entre le 28 avril, date de la chute, et le 3 mai, date du décès, soutient le coroner Truchon. Merci d'écouter la radio de Canal M de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens. Dans un petit moment, ce sont les actualités culturelles qui s'en viennent.
Le chien aboie, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques. Le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens aboient et Willy, le vieux Willy, écrit. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue ma tristesse et mes ennuis. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue mes fucking soucis, j'ai raté ma vie. Ce n'était, semble-t-il, qu'une question de seconde. Elle ne tient qu'à un fil, notre place dans ce monde. Au détour d'une peine, je me suis égaré. Si loin qu'on se souvienne, ma mémoire est cassée. Mes amours étaient belles, mais tout me les rappelle. Encore le labyrinthe, le destin qui m'esquinte. Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Ne soyez pas trop triste pour la fin de ma piste. Tous mes os me font mal, ils m'attaquent en chacal, en combat inégal. Ouch! Ah! Un peuple de démons, de fantômes en sommeil, se cacherait-il au fond de toutes mes bouteilles? Je suis si vieux, et où sont mes petites vieilles? Pour ma part, il me tarde de partir en voyage. Quitter cette famille de terreur qui fourmille. Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir. De ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux.
Vous êtes toujours à l'écoute du quotidien des quotidiens. On vient d'entendre Jean Leloup et extrait de son album À Paradis City. C'était la pièce Willy.
Actualité culturelle, en raison d'une épidémie de grippe qui afflige les membres du groupe Bonne Jovi et son équipe, les spectacles qui devaient avoir lieu ce soir et demain au Centre Bell sont reportés. Le promoteur Evenco en a fait l'annonce sur sa page Facebook en précisant que les deux spectacles ont été reportés les 17 et 18 mai prochains. Les billets du 4 avril seront honorés le 17 mai, ceux du 5 avril le 18 mai. Dans le Journal de Montréal, l'effet District 31, la dramatique signée par Luc Dionne en bonne position au Gala Artistes. Du côté des séries dramatiques annuelles, les comédiens du drame policier de Luc Dionne, Magali Lépine-Blondeau, Hélène Bourgeois-Leclerc, Vincent Guillaume-Otis, Luc Picard et Gildard Roy, accaparent la moitié des nominations en interprétation. La quotidienne de Radio-Canada est tellement aimée des téléspectateurs qu'elle permet à certains acteurs de s'illustrer dans plusieurs catégories. Gildard Roy peut ainsi se vanter d'être trois fois finaliste, non seulement pour District 31, rôle masculin série dramatique annuelle, mais pour Lâche et prise, rôle masculin comédie, et Marche à l'ombre, rôle masculin série dramatique saisonnière, deux fictions dans lesquelles il tient pourtant un rôle fort secondaire. Sans rien enlever à Marche à l'ombre, gageons que cette offrande de Francis Leclerc, présentée de manière beaucoup plus confidentielle à super écran, n'aurait jamais réussi à tirer son épingle du jeu au prix Artistes sans profiter de l'effet District 31. Vice-président exécutif et associé chez Léger, la firme chargée de déterminer les gagnants en menant des sondages auprès de 8000 francophones, Christian Bourque parle d'une aura qui dépasse la catégorie. Il mentionne également Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? C'est lui l'auteur de ce livre-là. Alors, il s'appelle Pierre-Yves McSween, qui n'aurait peut-être pas décroché une nomination comme animateur d'émissions de service pour l'indice McSween à Télé-Québec sans avoir participé aux émissions de radio très écoutées de Paul Arcand et de Paul Hood. Les nominations du Gala Artistes reflètent également les autres phénomènes télévisuels de 2017-2018. Ludivine Reding et Claude Legault s'illustrent grâce à Fugueuse. Guylaine Tremblay, Ève Landry et Mathieu Baron rayonnent grâce à Unité 9 et Charles Lafortune représente La Voix et La Voix Junior, sans compter Lâcher Lousse. Signalons aussi les quatre nominations de Boomerang. Nouveauté cette année, les finalistes au prix de personnalité féminine et masculine de l'année seront dévoilés lors du gala qui sera diffusé à TVA le dimanche 13 mai. Quant au contenu du rendez-vous, le metteur en scène et réalisateur Jean-François Blais désire mettre la pédale douce sur l'humour pour favoriser les numéros de variété et l'émotion. Les animateurs Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion ne tenteront pas d'imiter Louis-José Houd en enfilant les blagues en ouverture de cérémonie. La prochaine édition du Festival en chansons de Petite-Vallée, dont Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur sont porte-parole, atteint la parité homme-femme dans la catégorie grand spectacle. Sur 19 artistes participants, 9 sont des femmes, dont Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Marjo, Laurent Jalbert, Brigitte Boisjoli et Claude Pelgag. Louis-Jean Cormier avait créé une petite controverse en prenant position contre la parité homme-femme dans les festivals dans une rubrique hebdomadaire de la Presse Plus. Je suis content que le débat soit lancé. Je vais laisser la parole aux femmes parce que je crois que ce sont elles qui doivent en parler. Les gars, nous sommes là pour les écouter. Mais je suis très, très content d'avoir bien, malgré moi, lancé le débat, a-t-il dit lors de la conférence de presse hier à Montréal. Le directeur du village en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, a souligné que la campagne de financement pour la reconstruction du théâtre de la Vieille Forge a atteint 1 719 000 $. En attendant le nouveau théâtre, les spectacles auront lieu sous chapiteau. Parmi les autres artistes invités du festival qui aura lieu du 28 juin au 7 juillet, il y a Jean-Pierre Ferland, Paul Darèche, Fred Fortin, Yann Perrault et Philippe Braque. Dans une entrevue accordée hier à l'émission radiophonique le 15-18, le producteur Christian Larouche a annoncé son intention de porter à l'écran le troisième tome de la série de romans « Les filles de Caleb » d'Arlette Cousture en deux longs métrages. Catherine Léger, qui a notamment signé le scénario de Charlotte à Dufaune et qui a été confiée et à qui a été confiée l'adaptation québécoise de la populaire série française 10%, sera chargée de l'écriture du scénario. Campé entre les années 60 et 90, le récit serait construit autour des vies d'Élise et Micheline, les deux filles de Blanche, elles-mêmes filles des célèbres Émilie Bordelot et Ovila Pronovo. Pascal Bussière devrait reprendre son rôle de Blanche, mais les autres noms de la distribution n'ont pas été dévoilés. Le projet sera bientôt déposé aux institutions et si tout va bien, le tournage pourrait commencer d'ici un an. Festival du Jamais lu. Du 4 au 12 mai, le 17e Festival du Jamais lu propose au public de désobéir par humanité et de multiplier les échanges tout en étant de très mauvais marchands. Sur le thème « Manifester le fragile », Marcel Dubois et Solène Paré ont préparé une fête qui offrira la lecture des nouvelles créations d'Anne-Marie Olivier, Amélie Dallaire, Catherine Dorion et Marjolaine Beauchamp, en plus de nous faire découvrir des artistes de la relève de France et du Liban. L'arrêt Tremblay donnera aussi une classe de maître. Chaque lecture sera de plus précédée de manifestes du fragile écrits par des artistes comme David Paquet, Félix-Antoine Boutin, Natacha Canapé, Fontaine et Aurélie Langteau. Le festival a lieu dans les espaces du théâtre aux Écuries. Frisson garanti, la Place des Arts présente à compter d'aujourd'hui jusqu'au 29 avril le Printemps nordique, une vitrine de spectacles de danse, musique, théâtre, cirque et littérature, ainsi que nombre d'activités gratuites en provenance du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède. Avec 85 artistes invités, la Place des Arts assume ce printemps le pari de la nordicité, un mot très québécois évoquant tout autant la réalité des pays scandinaves. La directrice de la programmation, Clotilde Cardinal, confie qu'elle a éprouvé quelques frissons au contact des œuvres de ces artistes venus du froid. Après les disparitions de Jacqueline Desmarais et d'André Bourbeau, le monde de la musique classique pleure la disparition samedi d'Huguette Dubois, 78 ans, indissociable épouse de Roger Dubois de Canimex. Ensemble, Huguette et Roger Dubois sont des piliers de la scène musicale québécoise. Canimex soutient notamment le Concours de musique du Canada, l'Orchestre symphonique de l'Agora, le Quatuor Claudel Canimex, le Festival Bach et de nombreux musiciens individuellement par l'entremise de la plus imposante banque d'instruments du Canada. C'est au travers de cette fondation que M. et Mme Dubois sont à l'origine du prêt de l'Octobasse à l'OSM. Huguette Dubois est la mère de la pianiste Anne-Marie Dubois. La 5e édition du petit festival musical La Grosse Lanterne n'aura pas lieu cet été. Les organisateurs ont annoncé sur la page Facebook de l'événement avoir décidé de prendre une pause afin de réfléchir à la formule et revenir avec une édition repensée en 2019. Le festival est installé depuis 2014 sur un site hors des sentiers battus, dans la forêt de la petite ville de Bethany, en Montérégie. L'événement, dont la programmation est assurée par l'étiquette Bandsound, s'est associé en 2017 avec Mishmash, collectif expérientiel dont font entre autres partie le pique-nique électronique et l'étiquette La Tribu.
retour en 1994, Daran et les chaises, dormir dehors.
Sujet libre. Alors, je vais lire une lettre de Nelson Tardif, artiste en art visuel et travailleur autonome, dans Le Devoir d'aujourd'hui. Une lettre datée du 2 avril 2018. Un dépotoir nommé Montréal, point d'exclamation. Chers touristes, croyez-le ou non, une agglomération de près de 2 millions d'habitants croule sous les déchets. En effet, les trottoirs et les rues de la métropole québécoise, Montréal, sont jonchés de rebuts de toutes sortes. Élastiques bleus des postiers, courroies de plastique des publisacs, verres à café issus de la restauration rapide, canettes de bière, sacs de plastique, paquets de cigarettes vides et autres détritus qui devraient se retrouver au recyclage ou au dépotoir sont monnaie courante dans les rues de Montréal. Où est passée la fierté des Montréalais? Ensevelie sous les déchets? À quand une véritable politique montréalaise de la propreté de la ville? Compte tenu de la situation, nous vous conseillons d'autres destinations touristiques plus invitantes pour le regard. Malgré tout, si vous choisissez Montréal comme destination vacances, n'oubliez pas de ramener dans vos valises quelques pittoresques déchets, souvenirs inoubliables garantis. Le nom de Colborne, rayé de la carte, la ville de Chambly était la seule au Québec à honorer dans sa toponymie, le militaire britannique qui a réprimé la rébellion des Patriotes. C'est un article de Suzanne Colpron dans la presse. Sir John Colborne, la décision du maire de Chambly, Denis Lavoie, de débaptiser une rue et un parc portant le nom de ce militaire britannique qui a maté la rébellion des Patriotes soulève une petite tempête. Le parc et la rue Colborne porteront le nom Ostigui et l'actuelle rue Ostigui s'appellera dorénavant Petrosa, en hommage au fondateur d'un restaurant de Chambly, ville de près de 30 000 habitants en Montérégie. Résultat, le Mouvement citoyen de Chambly, MCC, a déposé hier soir à la séance du conseil municipal une pétition de 2 400 signatures opposées à ces changements. Des citoyens contestent la disparition de la rue Colborne et le déménagement de la rue Ostigui. Et des commerçants se plaignent d'avoir des coûts assumés, nouvelles cartes professionnelles, nouveaux lettrages sur les camions, etc. Bref, une décision qui fait beaucoup de mécontents. Mais une décision qui ne changera pas, s'il faut en croire, le maire Lavoie, élu avec une confortable majorité en novembre dernier pour un quatrième mandat. Des gens disent qu'il ne faut pas occulter l'histoire. Je m'excuse, il n'y a pas de rue Adolf Hitler en Israël, à ce que je sache, ni de rue Robespierre en France, ou de rue Pol Pot au Cambodge, dit le maire de Chambly. Le rôle de Colborne dans la rébellion des Patriotes n'est pas glorieux. Même les Anglais ne sont pas très fiers de lui. Je ne vois pas pourquoi je devrais l'honorer, lance Denis Lavoie, le maire. Au Québec, selon le répertoire toponymique, seul Chambly honore encore la mémoire de Colborne. À Montréal, l'avenue qui portait son nom a été rebaptisée avenue Delorimier en 1883. Il y a bien une impasse du Lady Colborne à Gatineau, mais elle fait référence au bateau, le Lady Colborne, nommé en l'honneur de la femme du commandant, Elizabeth Yonge. Cela dit, Sir John Colborne n'est pas le premier militaire britannique mal aimé à être visé par un changement de nom. L'ex-maire de Nicodère avait déclaré l'an dernier vouloir faire disparaître le nom de Jeffrey Amherst de la toponymie montréalaise. « Je ne pense pas qu'on puisse célébrer quelqu'un qui voulait exterminer des Autochtones. Goodbye, Mr. Amherst », avait-il dit. Qui est Sir John Colborne? Né le 16 février 1778 en Angleterre, Colborne était un militaire de carrière. Il s'est illustré très jeune en Égypte et à Malte, et a combattu pour la couronne britannique à Waterloo lors de la défaite de Napoléon en 1815. Nommé lieutenant-gouverneur du Haut-Canada en 1828, il est surtout connu ici pour avoir maté la rébellion des Patriotes dans le sang. À la tête de 2000 hommes armés en décembre 1837, Colborne a fait bombarder les villages de Saint-Eustache et de Saint-Benoît, incendier les maisons et condamner des patriotes à la pendaison. Quel rôle a-t-il joué dans l'histoire? C'est un personnage de très haut niveau dans la colonie, à la fois dans le Haut et le Bas-Canada, indiquait l'historien Yvan Lamonde, professeur émérite à l'Université McGill. Il est connu pour son commandement militaire et ses répressions dans la vallée du Richelieu. Sa conduite durant et après la rébellion lui a valu le surnom de Brûlot. Colborne était considéré par les citoyens du Bas-Canada comme un symbole de brutalité, de fanatisme anglo-saxon et d'anti-catholicisme. Pourquoi rayer son nom de la carte? Selon Martin Paquet, historien et professeur à l'Université Laval, c'est une question de sensibilité. Sensibilité est écrit ici au pluriel. Colborne a commis des actes qui ne correspondent pas aux valeurs contemporaines. C'est un peu normal qu'on relise le passé, dit-il. Mais il faut fournir aux gens les éléments et les informations pour justifier une telle décision. Est-ce qu'on honore quelqu'un dont la contribution à l'histoire est contestable? On peut s'en souvenir sans l'honorer. Comment expliquer le débat? Le maire de Nillavoie se doutait bien que la décision d'effacer la mémoire de l'officier britannique de la toponymie de Chambly ne ferait pas l'unanimité. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle suscite un aussi vif débat. Il a été surpris de recevoir autant de demandes d'entrevues de médias québécois et canadiens. Selon Patrick Dufresne, candidat défait aux dernières élections sous la bannière de Démocratie Chambly, le problème vient du fait que le maire n'a pas consulté les citoyens avant de prendre sa décision. Les gens ont reçu une lettre. C'est comme ça qu'ils ont appris les changements de nom de rue, avance-t-il. Est-ce une bonne décision? L'historien Yvan Lamonde croit que oui. Il est d'accord avec le maire Lavoie et son équipe. Les propos du maire au sujet d'Adolf Hitler sont forts, dit-il, mais ils font bien comprendre la situation. S'il y a un ennemi actif du Bas-Canada, c'est bien Colborne. Ça ne m'offusque pas qu'on veuille faire disparaître son nom. Ce qui m'importe toutefois, c'est que le débat se fasse dignement. Vestiaire sportif, l'entreprise québécoise Excentrique s'est donnée comme mission de créer un produit antidouleur qui soit efficace, naturel et facile à utiliser. Après plusieurs années de travail, c'est plutôt une gamme complète de produits qu'elle propose, Novarnica. Depuis l'automne dernier, on peut retrouver les 5 produits de la gamme Novarnica sur les rayons de la majorité des pharmacies. Il s'agit d'un vaporisateur antidouleur pour le sport, d'une crème et d'un vaporisateur antidouleur pour les maux du quotidien, ainsi qu'une crème et d'un vaporisateur antidouleur pour les pieds. Tous les produits ont en commun la présence dans leur formule d'Arnica montana, une plante qui serait reconnue pour son efficacité dans le traitement de plusieurs affections, ainsi que ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Son emploi permettrait de soulager les douleurs rhumatismales, musculaires et arthritiques, les courbatures et muscles endoloris, et pourrait aider dans le traitement de certaines blessures, comme les entorses. Après une chute ou un coup, vaporiser le produit pourrait atténuer ou même éliminer l'apparition d'ecchymoses. C'est un article d'Evelyne Audet. Les produits Novarnica sont tous de source entièrement naturelle. Ils contiennent une forte concentration d'arnica qui est combinée à du menthol, du camphre, de l'eucalyptus et pour certains produits du girofle et de l'aloès. Sa formule extra puissante contient 20 % d'arnica, ce qui, selon l'entreprise, serait la plus haute teneur actuellement vendue sur le marché. Nous avons aimé, nous avons fait une utilisation répétée des 5 produits que nous avons tous trouvés efficaces. Seule une petite quantité est nécessaire. La sensation est immédiate et l'effet persiste assez longtemps. Nous avons moins aimé, à l'exception des 2 produits pour les pieds, nous ne saisissons pas la différence entre les 3 autres qui offrent tous le même soulagement et qui ont une liste d'ingrédients très semblables. Notre verdict, la gamme Novarnica s'avère tout de même un excellent compromis pour la santé, avec beaucoup moins d'ingrédients chimiques ou artificiels que la majorité de ses concurrents, Les produits sont efficaces et très abordables, alors nous serions prêtes à les utiliser de nouveau. Ça complète le quotidien des quotidiens édition du mercredi 4 avril. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous souhaite à vous une très belle journée avec ou sans pluie. On se retrouve dans quelques minutes si vous nous écoutez en direct avec les paractualités et aussi demain si vous nous écoutez sur Internet. À bientôt.